à la fois ce que j'avais traité la dernière fois sur la philosophie de l'homme, et en particulier sur ce qui fait sa spécificité, la faculté que nous avons, s'appelle l'intelligence, ou la raison, je reviendrai là-dessus, et puis nous verrons aussi ce qu'il en est de la connaissance révélée par Dieu, à laquelle nous adhérons, cette révélation, par la foi. Enfin, nous passerons un certain temps sur l'encyclique « Foi et raison » que le Saint-Père Jean-Paul II nous avait donnée en 1998. Alors, je voudrais, comme introduction, regarder un petit passage de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. On a prié selon les mots de saint Thomas d'Aquin. Vous savez que ce théologien et philosophe du Moyen-Âge, dominicain, à la fin du Moyen-Âge, à la maturité du Moyen-Âge, il est mort à près de 50 ans, en 1274, c'était l'époque de Saint-Louis, a rédigé une œuvre, ou plutôt dicté d'ailleurs, une œuvre colossale, dont la partie la plus connue et la plus fréquentée est ce qu'on appelle la Somme théologique, porte bien son nom. Alors ça, c'est une édition qui avait été commencée par les pères dominicains dans les années 20 du XXe siècle, et puis dont le travail a été fini à peu près dans les années 50, je crois, qui donne le texte latin d'origine et puis le texte, la traduction française. Alors, pour vous donner une idée du volume que ça représente, parce que ce sont des petits fascicules qui parle de telle ou telle question, de tel ou tel thème. Dans cette édition, la Somme théologique, ça fait à peu près ça. Mais le prologue est très intéressant. Et alors, je vais vous en lire une petite partie. Et puis, nous regarderons aussi la toute première question de cette Somme théologique, parce qu'elle nous parle justement du sujet d'aujourd'hui. Alors, voilà ce que nous dit saint Thomas, parce qu'il le dit à nous, vous allez voir. Il appartient aux docteurs catholiques non seulement d'enseigner les plus avancés, mais aussi d'instruire les commençants. Selon ces mots de l'apôtre, comme à de petits enfants dans le Christ, c'est du lait que je vous ai donné à boire, non de la nourriture solide. Notre intention est donc, dans cet ouvrage, d'exposer ce qui concerne la religion chrétienne de la façon la plus convenable à la formation des débutants. Et pour nous. Nous avons observé en effet que dans l'emploi des écrits des différents auteurs, les novices en cette matière sont fort empêchés, soit par la multiplication des questions inutiles, des articles et des preuves, soit parce que ce qui leur convient d'apprendre n'est pas traité selon l'ordre même de la discipline, mais selon ce que requiert l'explication des livres ou l'occasion des disputes, soit enfin que la répétition fréquente des mêmes choses engendre dans l'esprit des auditeurs lassitude et confusion. J'espère que ce ne sera pas votre cas ce matin. Désirant éviter ces inconvénients et d'autres semblables, nous tenterons, confiants dans le secours divin, de présenter la doctrine sacrée brièvement et clairement, autant que le permettra la matière. Brièvement, c'est tout ça de bibliothèque, c'est évident. Voilà. Alors, la technique de l'époque, au Moyen-Âge, on appelle la méthode scolastique d'enseignement de la théologie, consistait à poser des questions qui recouvraient l'ensemble de la matière traitée. Et chaque question était divisée en questions annexes, qu'on appelle des articles. Et chaque article est traité de la manière suivante. C'est un petit peu anecdotique ce que je vous dis, mais enfin, ça va expliquer mon commentaire tout à l'heure. Il y a d'abord, on apporte les objections à ce que l'article veut dire. Par exemple, article « Dieu existe-t-il ? » Alors, les objections, non, Dieu n'existe pas, parce que. Ensuite, l'auteur, Saint Thomas, ici, apporte un démenti à ces objections par voie d'autorité. Et ensuite, il développe l'article une réponse argumentée à la fois intellectuellement et aussi à partir de l'écriture sainte. Et enfin, il continue en répondant à chacune des objections. Voilà la structure de l'enseignement de l'époque et c'est la structure de la somme théologique. Et je vous en parle parce que nous allons très rapidement, regarder la première question de cette somme théologique. La question est la suivante. Qu'est-ce que la doctrine sacrée? À quoi s'étend-elle? Et il y a 10 articles. Une telle doctrine est-elle nécessaire? Est-elle une science? Est-elle une multiple, spéculative ou pratique? Quel rapport entretient-elle avec les autres sciences? Est-elle une sagesse? Quel est son sujet? Est-ce qu'elle argumente? Doit-elle user de métaphores ou de locutions symboliques? Les textes de l'écriture qu'elle comporte sont-ils susceptibles de plusieurs sens? Vous voyez, voilà l'ensemble des questions élémentaires qu'on se pose à propos de la doctrine sacrée, ce qu'on appelle aujourd'hui la théologie. Alors, je vais simplement vous lire la réponse que saint Thomas donne à la première question. Outre les disciplines philosophiques, une autre doctrine est-elle nécessaire? Alors, les objections disent non, on ne voit pas la nécessité, puisque ça dépasse la raison humaine, donc ça dépasse la raison humaine, c'est pas la peine d'une autre science, etc., etc. Et la conclusion est celle-ci, la réponse argumentée de saint Thomas aux objections, puis ensuite il y aura les réponses détaillées aux objections, que je ne vous dirai pas, ça serait trop long. Il a été nécessaire en effet pour le salut de l'homme qu'il y eût en dehors des sciences philosophiques que scrute la raison humaine une doctrine différente procédant de la raison divine. Le motif en est d'abord que l'homme est destiné par Dieu à atteindre une fin qui dépasse la compréhension de son esprit. Car, dit le prophète Isaïe, l'œil n'a point vu, ô Dieu, en dehors de toi, ce que tu as préparé à ceux qui t'aiment. Or, ne faut-il pas qu'avant de diriger leurs intentions et leurs actions vers une fin, les hommes connaissent cette fin? Il était donc nécessaire pour le salut de l'homme que certaines choses dépassant sa raison lui fussent communiquées par révélation du ciel. À l'égard même de ce que la raison était capable d'atteindre au sujet de Dieu, il fallait aussi que l'homme fût instruit par révélation divine, car une connaissance de Dieu obtenue par la raison n'eût été le fait que d'un petit nombre. Elle eût coûté beaucoup de temps et fut mêlée de beaucoup d'erreurs. De la connaissance de sa vérité, cependant, dépend tout le salut de l'homme, puisque ce salut est en Dieu. Combien donc n'était-il pas nécessaire, si l'on voulait que ce salut fût procuré aux hommes de façon plus commune et plus certaine, que ceux-ci fussent instruits par une révélation divine? Pour toutes ces raisons, il s'imposait qu'il y eût, en plus des disciplines philosophiques, œuvre de la raison, une doctrine sacrée acquise par révélation. Et là, ensuite, ce texte de saint Thomas sera repris de manière révélée, avec toute l'autorité de l'Église, par le Concile Vatican I, dont je reparlerai tout à l'heure. Ensuite, nous pouvons, mais là je passe très vite, survoler les autres articles. La doctrine sacrée, la théologie, est donc, nous dit saint Thomas, une science, c'est-à-dire un savoir sûr, stable et nécessaire. Pas seulement une opinion, une sensibilité, des choses que nous sommes très, très fort. Alors, non, c'est vraiment un savoir. C'est aussi, nous dit saint Thomas, une sagesse. Comme en parlait tout à l'heure le père Ivan, une sagesse, alors je vais même un peu plus loin, dans l'Antiquité, qui date de Socrate et d'Aristote, en passant par Platon, et qui a été repris par la philosophie Moyen-Âge, la sagesse est ce qui ordonne les différents savoirs. Le propre du sage, dit Aristote, c'est d'ordonner. Voilà. Donc la doctrine sacrée, la théologie, est une sagesse. Et, nous dit saint Thomas, c'est une sagesse qui, cependant, argumente. Argumente au moyen, justement, de la raison humaine. Et ça, nous y reviendrons tout à l'heure. La sagesse que représente la théologie utilise les moyens de l'intelligence humaine pour se développer, pour affirmer sa vérité. Et cela, donc, implique un concours entre la révélation, la foi, et la raison. Voilà, d'où le sujet de notre entretien d'aujourd'hui. Alors, je vais revenir assez rapidement, d'abord, dans une première partie, sur ce que représente justement la raison, l'intelligence humaine, dont on a un peu parlé, même pas mal, je crois, enfin j'espère, pour vous, dans la partie philosophie de l'homme. Je le redis parce que c'est très important, surtout par les temps qui courent, l'intelligence, au sens philosophique du terme, est vraiment une faculté spécifique à l'être humain. Nous partageons avec les animaux un certain mode de perception de la réalité et une exploitation de cette perception pour notre survie, pour notre développement, pour notre reproduction, mais la capacité que l'être humain a d'accéder au réel, à la réalité, dépasse très largement, et il y a un saut, une solution de continuité entre l'intelligence, entre guillemets, et l'intelligence humaine. Cette spécificité de l'être humain, la raison, c'est de connaître la vérité et d'y adhérer de manière consciente. Je sais que je sais. Et d'ailleurs, une des vérifications de cette spécificité de l'intelligence humaine, c'est que, c'est malheureusement triste, mais c'est comme ça, l'être humain est le seul capable de mensonge. L'animal, non. Parce que la corruption du meilleur est ce qu'il y a de pire. C'est un vieux dicton de la philosophie antique, mais c'est très vrai. Quand le meilleur se corrompt, il devient pire. C'est pour ça que l'être humain, qui est le sommet de ce que nous appelons, nous croyants, la création, est capable de détruire cette création elle-même. Ce que les animaux ne sont pas capables de faire. Ils sont dans un équilibre, quelquefois violent, mais qui est équilibré. Voilà. Alors, l'intelligence humaine est à la fois capable de, enfin, vers la réalisation pratique, hein, poser des actes, faire des choix, et elle est aussi capable de travailler dans le domaine spéculatif, hein, qui est une recherche de la vérité du réel, au-delà de toute utilité pratique, simplement pour la joie de connaître. Là encore, c'est Aristote, hein, qui dit que nous avons tous cette disposition naturelle à être attirée par la connaissance. C'est ce qui fait la fortune des organes de presse, hein, de la télévision, de la radio, nous avons envie de savoir. Alors là aussi, quelquefois, ça va beaucoup trop loin. Tous les 5 minutes, on a une information, pour savoir ce qu'ils font. Ça ne nous apprend pratiquement rien, ça déforme notre intelligence, mais parce qu'on a envie de savoir. Au-delà de notre seule sécurité ou de nos seuls besoins, on s'intéresse au football, à la menuiserie, ceci. Voilà. Alors, la raison, l'intelligence, ne l'oublions pas, touche effectivement l'agir de l'homme, hein, notre capacité à poser des actes qui ne sont pas seulement rendus nécessaires par la nécessité, la nourriture, la sauvegarde, la reproduction, hein, mais qui sont destinés à ce que nous percevons être notre bien, ou même le bien des autres. Et c'est ce qu'on appelle des actes raisonnables, hein, parce que nos attirances, nos passions, ce qui pourrait nous rendre en porte-à-faux vis-à-vis du réel, sont modérés par ce qu'on appelle les vertus. Les vertus viennent nous apprendre progressivement, c'est le rôle de l'éducation, les vertus viennent nous apprendre à poser des actes raisonnables. On apprendra aux petits enfants qu'il ne faut pas prendre une tablette de chocolat pour la manger tout de suite, mais qu'il aura droit à un carré par jour et qu'on en carré un demi-carré seulement. Sauf le demi. Voilà, la raison, la vertu. Alors, c'est intéressant d'ailleurs, il ne faut pas opposer, hein, on a peut-être tendance à le faire quelquefois, un peu par préjugé, romantique. À opposer l'intelligent et le raisonnable. L'homme raisonnable, ce serait le type un peu nouveau, le con, il fait plus, pas plus, ni moins. Voilà. L'intelligent, lui, c'est flamboyant, ça marche. Non, au sens propre, hein, intelligent et raisonnable vont ensemble. Alors, les outils de la raison, de l'intelligence, nous l'avons dit, hein, je reviens très rapidement là-dessus, c'est sont d'abord nos sens, nos cinq sens, et auxquels sont couplés, si je puis dire, la mémoire, l'imagination, et puis cette capacité que nous avons de raisonner, d'articuler justement nos conceptions, nos perceptions d'une manière intelligente pour accéder à la vérité. C'est ce qu'on appelle en philosophie critique, hein, le discours, le raisonnement qui met en œuvre la capacité logique de notre intelligence. Et, je l'avais noté, mais je vous le redis parce que c'est très important, il y a cette spécificité de l'intelligence humaine qui est de développer une capacité d'abstraction du réel qui aboutit au concept. Dans le texte que nous avons lu, là, de la sagesse, hein, les gouttes de pluie, le nombre de grains de sable de la mer, qui peut les comprendre? Personne. Mais oui, c'est vrai, on ne peut pas compter les gouttes de pluie. Mais on est capable justement de dire qu'est-ce que c'est qu'une goutte de pluie. Une goutte de pluie. Il n'y a pas deux gouttes de pluie qui se ressemblent. On les aperçoit à peine, il y a une mouille, mais c'est tout. Bref, hein, nous savons, nous pouvons abstraire ce qu'est une goutte de pluie, ou une table, ou une chaise, ou une automobile, ou une fusée, bref, ou un champ. Et cette étendue des concepts que développe l'intelligence humaine, et qui se développe d'ailleurs au fur et à mesure de l'histoire humaine, nos ancêtres, il n'y a pas si longtemps que ça, ne savaient pas ce que c'était qu'un smartphone, par exemple. Maintenant, tout le monde le sait. Et, c'est-à-dire, donc, le concept de smartphone est issu d'une découverte récente. Voilà. Et tout cela, donc, caractérise cette capacité infinie, hein, de l'intelligence humaine à saisir dans le réel de quoi se développer et de quoi communiquer ce développement aux autres. Un petit enfant d'aujourd'hui, à je ne sais pas quel âge, il sait ce que c'est qu'un smartphone. On lui a transmis, mais très vite, il sait s'en servir. Alors, il y a le langage, qui est l'outil premier de cette transmission, et qui, là encore, est très au-delà des signaux, quelquefois perfectionnés, mais qui ne sont que des signaux que les animaux peuvent se transmettre les uns aux autres. Le langage, avec les différentes langues, hein, la capacité de l'être humain à apprendre une autre langue que sa langue maternelle, et puis, au-delà même du langage, un autre degré d'abstraction, qui est l'écriture, hein, qui fait que nous sommes capables de lire des signes, variables d'ailleurs, selon leur taille, leur couleur. Tout cela, donc, ce sont des caractéristiques de l'éminence de la faculté intellectuelle que l'être humain possède. Dans le domaine, ça c'est dans le domaine spéculatif que je vais surtout parler, mais dans le domaine de l'agir, hein, dont je parlais tout à l'heure, une des caractéristiques très spécifiques de l'intelligence humaine, de la raison, c'est la liberté du choix. Je décide, sans doute, espérons-le, vertueusement, d'agir dans ce sens ou dans un autre. Et justement, en considérant avec une intelligence raisonnable les circonstances de mon acte, eh bien, je vais poser un acte qui sera vraiment pour mon bien, pour le bien des autres. Quelquefois, ça sera de manger, quelquefois, ça sera de me passer de manger ou de modérer mon appétit, etc. Matériellement, la décision pourra être l'inverse selon les circonstances, mais à chaque fois, si c'est un acte vertueux, ce sera en vue de mon bien. Et notons aussi au passage que cette caractéristique implique comme faculté conséquence la conscience. La conscience qui est un mot à double sens, c'est à la fois la conscience que j'ai, je sais qui je suis, j'ai conscience d'être moi, sauf quand je dors d'ailleurs, mais ensuite quand je me réveille, je reprends conscience. Et aussi, la conscience est comme le tribunal intérieur de mes actes, qui me fait dire que j'ai bien agi ou que j'ai mal agi. Et cette conscience de mes actes se rapporte nécessairement à une loi qui a plusieurs étages, la loi humaine. J'ai conscience d'avoir grillé un feu rouge, pas bien, je trouve. La jambe, pas eu d'accident. Il y a de moi, mais on ne passera jamais la prochaine fois. Loi humaine, feu rouge. Oui. Loi humaine qui, quelquefois, peut être l'objet d'une objection consciente. Je désobéis volontairement à cette loi parce que j'estime qu'elle est inique par elle-même ou étant donné les circonstances. La loi humaine, la loi naturelle, qui est comme le fondement, qui devrait être comme le fondement de toute loi humaine, la loi naturelle est, qui nous dit, la marque que Dieu a mis dans le cœur de tout homme de cette exigence morale. Et la loi naturelle se résume, vous savez, s'appelle le précepte d'or, tu ne feras pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et aussi, au-dessus de la loi naturelle, pour celui qui est croyant, et qui prend un Dieu qui s'occupe de sa création, la loi révélée. Pour nous, chrétiens, héritiers de la révélation biblique, la loi divine, elle nous est donnée fondamentalement par les 10 commandements confiés au peuple hébreu, par l'intermédiaire de Moïse, et elle est accomplie par le Christ en partie. Dans l'évangile des béatitudes. Voilà ce que l'intelligence humaine, la raison, ce que l'on peut en dire très rapidement bien sûr, mais en caractérisant la spécificité. Je répète, important de méditer là-dessus parce que l'air ambiant philosophique et scientifique veut nous faire croire qu'il y a solution continuité. Il n'y a pas solution continuité, je veux dire. Qu'il y a une continuité entre le monde animal et l'être humain. Donc il y a une marche infranchissable. Alors, deuxièmement, la foi. Observons en passant très rapidement que le régime croyant, entre guillemets, la foi, accorder foi à quelque chose ou à quelqu'un, est très ordinaire même dans l'ordre humain de notre vie quotidienne. Nous faisons foi à l'étiquette du produit qu'on achète, nous faisons foi à ce qui nous a été enseigné à l'école, à ce que nous ont dit nos parents, au fait que justement si le feu est vert, eh ben, à côté, ils ne vont pas passer, et donc je vais y aller, ça risque de me faire écraser ou de collision, etc. Hein, donc, dans beaucoup de domaines de notre vie ordinaire humaine, nous accordons foi, sans qu'il y ait de preuves demandées ou a priori. Mais le cas de la foi théologale, la vertu de foi, est différent fondamentalement, même s'il recoupe ces registres, parce que la foi théologale est un don qui nous vient de Dieu et qui nous permet de connaître Dieu en vue justement de mieux le connaître et de pouvoir l'aimer. Et la foi, à travers la foi, Dieu nous révèle ce qui dépasse mon intelligence, comme nous l'entendons déjà dans la somme de saint Thomas d'Aquin. Il y a des réalités qui dépassent notre intelligence. Des réalités un peu élémentaires, mais qui est Dieu? Quel est son dessein sur chacun de nous? Ça dépasse notre intelligence humaine. Et Dieu nous le révèle. Alors, cela nécessite une adhésion de ma part. C'est bien que la foi, l'acte de foi n'est pas seulement un acte d'intelligence, mais aussi un acte de désir, de volonté, hein, qui nous fait adhérer à ce que Dieu nous dit parce que Dieu nous le dit, comme il nous fait dire l'acte de foi. Là, je reprends ce passage de la Constitution sur la révélation divine dans Vatican II, au numéro 5. À Dieu qui révèle est due l'obéissance de la foi, comme dit l'Épître aux Romains, par laquelle l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu, dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui révèle. C'est le Vatican I, la dernière citation du Vatican. Voilà. Et donc, vous venez d'entendre, la foi est acte d'intelligence, hein, qui porte sur la vérité, mais acte de volonté qui porte sur un bien. Donc un choix qui implique la liberté, qui a été encore repris dans le Concile Vatican II, dans la Constitution, la déclaration plutôt, dignitatis humanae, dignité humaine, ou aussi dans le nom de l'entendre, hein, dans la Constitution des libertés. Un choix libre et personnel. Personne ne peut croire à ma place. Même si la foi se transmet et la révélation se transmet par nos parents, par nos maîtres, par nos églises, on voit tout de suite, hein, mon adhésion de foi est personnelle. Nous ne sommes pas seulement les membres d'une communauté religieuse, d'une croyance, hein, nous adhérons personnellement à ce choix. C'est ce qui se fait. Principe, hein, le jour de la communion solennelle, comme on dit. Il y a le baptême, alors souvent les baptisés petits enfants, donc là on ne va pas trop demander notre avis, ce sont nos parents, parrains et marraines qui ont dit je crois et je renonce. Hein, et puis vient le jour où l'enfant a grandi et là l'Église lui demande, alors, ça peut être au moment de la confirmation, mais ça peut être aussi d'une manière un peu paraliturgique. Au moment de la communion solennelle, où l'enfant qui a grandi va dire oui, je souscris à ce qui m'a été transmis. Malheureusement, vous savez aussi bien que moi, hein, cette affirmation est quelquefois encore très fragile, hein, et dépend beaucoup de la contexte qui n'est pas toujours favorable. Mais bon, l'homme, l'être humain, fait ce qu'il peut et il essaye de se conformer à ce que Dieu lui donne, même si ça le dépasse. Alors, une ressemblance entre la foi et la science, c'est qu'il y a une certitude dans notre acte de foi. Ce qu'on affirme dans le credo tous les dimanches, hein, ça doit être pour nous une certitude. Dieu est un en trois personnes. L'hostie que je reçois lorsque je communie, c'est le corps du Christ. Je le dis, Amen. Si je ne suis pas d'accord, je ne l'ai pas communié. C'est important, hein, quand même. On est souvent, hélas, obligé de le rappeler lorsqu'il y a des célébrations comme des enterrements ou des mariages où il y a beaucoup de gens dont on ne sait plus du tout s'ils sont baptisés, croyants, s'ils ont commis un crime ou plusieurs, etc. Donc de dire que ben, pour venir communier, il faut croire que Jésus est là. Et puis il ne faut pas être séparé de lui par un conflit grave, un péché. Voilà. Bref. Donc la foi est une certitude, mais une certitude qui, contrairement aux sciences humaines, ne comporte pas d'évidence de ce à quoi, de ce de quoi on est certain. Il n'y a pas du tout d'évidence que le corps du Christ est là dans le style consacré. L'évidence, elle est du côté d'abord sur le pain. C'est ça que vous voyez, c'est ça que vous touchez, c'est ça que vous goûtez, mais la foi, comme le dit d'ailleurs saint Thomas d'Aquin dans la ligne magnifique qu'il a faite pour la fête du Saint-Sacrement. Seule la foi nous dit que Jésus est mort. Alors, dans la foi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu se fait connaître. Il signe en quelque sorte lui-même, ce n'est pas son acte de naissance, mais sa réalité. Voilà qui je suis. Voilà où je vous conduis. On participe à la science de Dieu en recevant la foi au baptême. Ce petit bébé, là, il participe à la science de Dieu. Mais cette foi, elle doit se développer, hein, se recevoir et se développer dans l'Église. D'où l'importance et la réalité des dogmes, hein, qui nous permettent justement de structurer, de faire grandir notre foi et de la garder dans sa vérité. Mais, c'est important de le noter, l'acte de foi, elle ne porte pas sur la... Comment dire, n'est pas qualifié par la littéralité des dogmes. Je veux dire, pour en prendre un exemple éminent, que la foi de la Vierge Marie, je ne sais pas si la Vierge Marie savait le credo par cœur, hein, même en hébreu ou en araméen. Elle ne savait pas, elle n'avait pas consulté le traité de la Trinité de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Mais sa foi est au-dessus de la foi de tous les êtres humains. Et pareil pour Abraham, comme dit Jésus là, à ses adversaires, il dispute avec les pharisiens, hein, Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. Alors les autres ne comprennent pas, évidemment. Il n'a pas 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Après les pierres, Jésus s'éclipse. Bref, hein, la foi est aidée par toute cette littérature, par tous ces écrits, par toutes ces considérations, nos ancêtres dans la foi, des saints, des théologiens. Et des conciles, mais, et c'est un héritage qui est extrêmement considérable pour nous, parce que justement, on a un accès aux réalités de la foi beaucoup plus aisé et beaucoup plus sûr que ceux qui nous ont précédés. Donc, c'est notre reconnaissance. Mais c'est la même foi fondamentale. Et le motif de la foi, hein, c'est que, du côté de Dieu, c'est que Dieu m'attire. Hein, l'amour de Dieu qui veut m'amener à lui, à le connaître. Parce que le bien veut se donner. Ça, c'est encore un petit dicton philosophique, mais qui est éminemment vrai dans le domaine de la foi. Hein. Le bien est diffusif de lui-même. Tout ce qui est bien se diffuse comme un bien et veut attirer à soi. Que ce soit... le miel, le gâteau, le soleil, la lumière, tout ce qui est bien pour nous nous attire naturellement et Dieu nous attire surnaturellement. Alors le contenu de la foi n'est pas ce qui a trait aux connaissances ordinaires et comme je vous l'ai dit, je crois déjà, on n'a pas besoin de la foi pour savoir que la surface du cercle est égale à pi multiplié par le carré de son rayon. la surface, le volume de la sphère aux 4 tiers de pi r 3. Non, ça, ce sont des connaissances humaines, ordinaires. 2 et 2 font 4. Si je plante une graine, elle pousse. Pas besoin de la foi. Il y a donc la révélation de la foi est nécessaire absolument pour accéder à des réalités qui dépassent totalement mon intelligence. Par exemple, je reprends ces exemples qui sont les plus manifestes, le dogme de la Trinité, l'existence de trois personnes, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas trop d'autres mots, en Dieu, qui est unique, ou la présence réelle dans l'Eucharistie. Mais Dieu nous vient en aide aussi par miséricorde dans des domaines, comme saint Thomas le disait, hein, dans des domaines qui pourraient être accessibles, mais difficilement et non sans risque d'erreur à la raison humaine, comme le fait que Dieu soit créateur, ou fait qui était évident jusqu'il y a quelques années, mais qui est moins maintenant, que Dieu a créé l'être humain homme et femme. Pas une option. Ce sont des choses qui sont révélées, mais qui sont ou devraient être accessibles à l'intelligence humaine, même en dehors de toute croyance ou de toute foi. Que la vie humaine, dès sa conception dans le sein de la mère, doit être respectée parce qu'il y a là un être humain vivant, unique et spécifique. Voilà. Ce sont des réalités sur lesquelles l'Église intervient en tant qu'elle est, comme le dit le Concile, mère et maîtresse de la vérité, mater et magistra. C'est pas le Concile qui dit, c'est le pape Jean XXIII, mater et magistra. Elle le fait, je ne veux pas le croire, mais c'est comme ça quand même, en disant, non, ce qu'on vous dit là, c'est une exigence que tout homme devrait pouvoir percevoir. Mais la foi nous dispose à ce qui nous sera donné gratuitement encore au-delà de notre mort, la connaissance de Dieu. Comme dit saint Paul, alors je connaîtrai comme je suis connu. Un point à méditer cependant, la foi, comme je le disais, l'adhésion de foi est libre et c'est la. Comment dire ça, la rançon, c'est pas le mot. Le corollaire nécessaire de cette liberté, c'est une certaine obscurité de la foi, qui est une épreuve. L'évangile de dimanche, là, nous parlait des épreuves, des tentations que Jésus a voulu connaître dans le désert. Il faut être très conscient du fait que, et ça aussi c'est une loi humaine seulement, il n'y a pas de progrès sans épreuve. Nous allons passer des examens, là, vous allez avoir des tampons sur votre feuille Athénée parce que vous subissez des épreuves là, en ce moment même. C'est pas trop pénible, mais c'est le cas. Voilà, on progresse, il faut des. Et il y a des passages. Et même les anges ont dû subir l'épreuve de la tentation. Et certains ont refusé cette épreuve, et donc ils sont devenus des démons. Foi est une épreuve et cependant une béatitude. Jésus le dit à multiples reprises, heureux celui qui croit sans avoir vu, et saint Pierre dans son épître le dit d'une manière très forte, hein, que vous êtes tressaillé de joie, même s'il faut que vous soyez attristé par différentes épreuves qui vérifieront la qualité de votre foi. Cette foi plus précieuse que l'or que l'on éprouve cependant par ce feu. Une autre remarque, hein, c'est que la vie dans la foi implique une cohérence entre ce que nous croyons dans notre intelligence et la manière dont nous vivons. On peut se rapporter à ce sujet à l'épître de saint Jacques ou à d'autres passages aussi de l'épître de saint Paul, bien que Luther ait essayé d'opposer l'un et l'autre, de manière très artificielle d'ailleurs. La foi n'est pas distincte des œuvres de notre vie. Il y a une cohérence nécessaire entre la foi, ce à quoi je crois et ce à quoi j'adhère, et la manière dont je vis. Et cette cohérence, d'ailleurs, même si quelquefois elle peut, il peut arriver qu'il y ait une apparence de vie de foi alors que le cœur est vide de charité, ça arrive, mais assez souvent, même la plupart du temps, la charité et l'espérance vont se corrompre peu après que la foi ait disparu. Ou inversement, la foi disparaîtra lorsque la charité ou l'espérance auront été érodées ou auront disparu. Enfin, la foi réclame la nourriture de notre intelligence et de notre volonté, de notre cœur, à travers la familiarité avec la parole de Dieu, et d'ailleurs avec la révélation dans son ensemble, c'est-à-dire aussi la parole de l'Église, et puis les sacrements. Les sacrements qui viennent directement, en même temps, éprouver notre foi, parce que, vous le connaissez, quand on communie, on dit Amen, et finalement, la plupart du temps, on réfléchit à ce qu'on dit. Est-ce que je crois vraiment là, quand je dis Amen? Je vous invite à réfléchir un petit peu. Voilà, il ne faut pas non plus tomber dans le scrupule en disant, puisque je n'ai pas tout compris, il ne faut pas que j'y aille. Non. Le Seigneur sait, de toute façon, on ne comprendra jamais tout. Bon, les gouttes de pluie, le sable de la mer. Voilà. Quelques aperçus sur la foi. Vous n'êtes pas trop épuisé? Vous continuez?
On garde la foi.
Comment?
On garde la foi.
Bon, très bien. Et l'intelligence aussi. dans une troisième partie de ce volet-là, je voudrais dire un petit mot rapide sur l'articulation de la foi et de la raison. Hein, ça recoupe ce que saint Thomas a évoqué dans la. À la fin de la question 1, là, savoir si la doctrine sacrée argumente comme les autres sciences. Alors, il y a des objections. Je vous lis la première objection, tiens, par exemple, de cet article 8 de la question 1 de la Somme de théologie. Il ne paraît pas que la théologie argumente. Saint Ambroise dit qu'on rejette les arguments, qu'on se demande, hein, qu'on rejette les arguments là où c'est la foi que l'on cherche. Voilà ce que dit saint Ambroise. Donc voilà, moi j'ai la foi du charbonnier, ça mon intelligence, ça ne m'intéresse pas. Je peux croire. Dans cette doctrine, saint Thomas, donc, c'est la foi qu'on cherche. Ces choses ont été écrites, dit saint Jean, afin que vous croyiez. La doctrine sacrée ne procède donc pas par argument, pas une objection. La réponse d'autorité est la suivante, intéressante aussi. L'apôtre, saint Paul, quand saint Thomas dit l'apôtre, c'est saint Paul. Parlant de l'évêque, dit ceci, qu'il soit attaché à l'enseignement sûr, conforme à la doctrine, afin d'être en état d'exhorter dans la sainte doctrine et de confondre les contradicteurs. Donc voilà, ça c'est la réponse d'autorité. Alors saint Thomas va la développer longuement d'ailleurs, ça, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, ça prendrait trop de temps. Mais ça nous montre comment, pour saint Thomas, la foi et la raison se servent en quelque sorte des facultés qu'il y a dans notre intelligence, à chacun de nous, intelligence qui est personnelle. Si bien que les deux ordres de connaissance dont parle le Concile Vatican I, qui sont, et dont parlait déjà saint Thomas, hein, qui sont distincts à la fois par leur objet et par leur source, la connaissance humaine qui a pour objet les vérités accessibles à ma raison et pour source l'intelligence, aidée de naissance, de la mémoire et de l'imagination, est le premier ordre de connaissance humaine. Et puis, l'ordre divin a pour source Dieu lui-même et pour objet Dieu lui-même. et par le moyen de la foi, s'adresse à mon intelligence. Si bien qu'il est nécessaire que je mette en œuvre mon intelligence pour collaborer à la croissance de ma foi. C'est un petit peu, enfin, c'est un des sens hein, de la parabole du semeur. Vous voyez, le semeur qui jette la graine, et il y a des graines qui tombent dans les ronds, dans les sols pierreux, dans, là où les oiseaux les picorent, etc. Eh bien, on peut comprendre, seulement c'est pas le seul sens, hein, mais on peut comprendre cette parabole comme une invitation à faire de notre intelligence et de notre cœur une bonne terre où la parole va germer, à sortir les cailloux de nos préjugés, les ronces de nos passions, de notre éducation plus ou moins réussie, etc. Et cela, c'est un travail dont nous avons la responsabilité personnelle. Il y avait autrefois un vieux cantique que je n'ai jamais chanté in situ, mais dont on critique peut-être à juste raison la formulation, hein, « Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver » de toutes les flammes, je ne sais pas quoi, de l'éternité. Alors on critique ça en disant ben « Oui, mais c'est pas bien, c'est pas charitable, parce qu'on ne se préoccupe pas des autres. » Bon, acceptons la remarque. Mais n'empêche que, c'est vrai que nous sommes exclus, il n'y a que nous qui sommes responsables hein, de ce que nous allons devenir dans la vie éternelle. Et on ne croit pas pour quelqu'un d'autre, on n'aime pas pour quelqu'un d'autre, on ne recherche pas la vérité pour quelqu'un d'autre. On peut aider, oui, même c'est nécessaire, mais au bout d'un moment, il faut que moi, je fasse la démarche. Voilà. En n'oubliant pas que hein, le mystère n'est pas l'absurde. Cette autre petite phrase latine, credo qui absurdum, est un mensonge. Je crois parce que c'est absurde. Non, au contraire, je crois parce qu'il y a trop de lumière pour moi. Et donc, je fais le pas, avec l'aide de Dieu, pour accepter cette vérité qui me dépasse. Mais qui est, comme le disait déjà Ben Sira, la joie, la lumière, ce que délire profondément mon humanité avec sa capacité de comprendre et d'aimer. Sans compter que quand Dieu se révèle à moi, il me révèle aussi qui je suis et qui est mon frère, qui est mon époux, mon épouse, hein, qui est l'homme. Parce que nous sommes, ça s'est révélé, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc quand Dieu se fait connaître, il me permet de me connaître. Et inversement, plus je cherche à connaître l'être humain, plus je découvre qui est Dieu. En transposant, bien sûr. Voilà. Alors quels sont les savoirs humains qui peuvent m'aider à grandir dans la foi ? C'est un petit peu comme pour les connaissances, hein. Les savoirs techniques ne sont pas très très utiles. Saint Thomas dit dans quelque part dans la somme théologique, sans la grâce, l'être humain est capable de construire des maisons et de cultiver la terre. Mais c'est tout. Bon, c'est un exemple. Hein. Mais voilà, il y a des connaissances humaines. La sauterie, la menuiserie, ou je ne sais pas quoi, qui ont leur noblesse, hein, on ne peut pas dire, je ne dis pas, mais qui ne nous aideront pas directement à grandir dans la foi. Alors effectivement, je peux construire une maison par charité pour mon voisin qui a besoin de l'aide, ou cultiver la terre pour pouvoir offrir mes récoltes à ma voisine qui en a besoin pour mettre dans sa soupe. Mais voilà, ce n'est pas directement la chose. Les savoirs techniques, donc, ne sont pas forcément directement dirigés vers la croissance de ma foi. Par contre, il y a des savoirs humains comme l'histoire, hein, ou la connaissance des langues. Nous venons d'entendre d'ailleurs dans l'exposé du Père Yvan, hein, savoir que à quelle époque a été composé tel livre de la Bible, dans quel contexte historique, tout ça est très intéressant pour nous aider à mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire, ce qu'il voulait dire à l'époque, en parlant à cet auteur inspiré, et ce que le Saint-Esprit, 2000 ans, veut nous dire à moi, va me dire à moi aujourd'hui. Savoir justement que quand on parle de la crainte de Dieu, c'est une autre réalité, un autre concept. Concept de crainte de Dieu. Voilà, donc les savoirs historiques, et aussi d'ailleurs, c'est très intéressant de noter en passant, les activités artistiques de l'être humain peuvent fortifier la foi. La musique sacrée, les différentes formes d'art sacré. Et d'ailleurs, je ne veux pas tresser une auréole prématurée à Hortense et compagnie, mais ce que vous faites en suivant l'Athénée, eh bien, c'est en vue de, j'espère, en tout cas, ça peut vous aider, ça doit vous aider à fortifier à votre foi, votre intelligence du mystère de Dieu, pour vous-même et pour les autres. Mais, il y a un savoir humain qui est extrêmement spécifique et très précieux pour le travail en vue de la foi, c'est la philologie. La connaissance philologique qui est une sagesse humaine, qui vise à acquérir une sagesse humaine, la connaissance philosophique a une place tout à fait particulière dans le travail qui nous permet d'approfondir notre foi. Et c'est la connaissance philosophique en tant qu'elle est une recherche qui touche la réalité, une connaissance la plus profonde et la plus vraie possible du réel. Pourquoi ? Parce que Dieu, nous pouvons le découvrir aussi bien d'ailleurs par la voie philosophique que par la voie révélée, comme source de tout ce qui existe, de tout ce qui est réel. Par conséquent, chaque fois que nous arriverons à nous rapprocher de la connaissance du réel, eh bien, nous travaillons, si je puis dire, avec le bon Dieu. D'où un adage qui sera repris d'ailleurs comme tête de chapitre par Jean-Paul II dans l'encyclique, hein. Credo, je vous dis en latin, parce que c'est intéressant, ça peut vous dire. Credo ut intelligam, je crois en vue d'être intelligent. Et oui, un croyant est plus intelligent qu'un non-croyant. Pas forcément dans l'exercice de son intelligence, mais là encore, c'est notre cher saint Thomas qui le dit, hein. Une vieille femme illettrée qui a la foi en sait plus qu'un philosophe éminent qui ne l'a pas. Parce qu'elle sait des choses que le philosophe ne sait pas. Que Dieu est présent dans l'Eucharistie, qu'il est trois personnes. Donc voilà. Hein, je crois en vue d'être intelligent. C'est ce que dit d'ailleurs Ben Simak hein, dans le petit passage qu'on a. La crainte de Dieu est sagesse. Mais aussi, intelligo ut credam. Je cherche à être intelligent pour, c'est moi qui parle un peu, pour mieux croire. Pour croire plus profondément, pour croire plus personnellement, pour croire plus intensément. Et je cherche à savoir en quoi je crois. Ce qui n'est pas le doute, hein. Le progrès dans la foi passe par un questionnement. Comment cela peut-il se faire, puisque je ne connais pas. Mais comment cela peut-il se faire que Dieu soit unique en trois personnes? Comment cela peut-il se faire que Dieu soit présent dans le temps? Je me pose des questions, et il est bon que je m'en pose. C'est pas forcément « je ne crois pas hein, », vous comprenez? C'est la différence entre Zacharie et la Vierge Marie, là, dans les deux récits d'Annonciation de Saint-Luc. Zacharie qui dit, mais comment est-ce que je saurais que cela va se réaliser? Paf, il est puni. Puni, hein, c'est vrai. Dieu ne punit pas. Et là, il est quand même puni. Il a fait une punition. religion relativement bénigne, donc il va se sortir en louant Dieu. Donc ça, bonne punition, médicinale. Mais il est quand même puni, sanctionné en tout cas. Alors que la Vierge Marie est éclairée. Toute la différence entre le doute, qui peut être un péché contre la foi, ou qui peut être comme mettre en tout cas grignoter notre foi, et puis la question, qui est au contraire un travail de mon intelligence. Voilà l'interaction, hein, très rapidement survolée, entre l'intelligence et la foi. Et nous en venons justement à la troisième partie de l'exposé d'aujourd'hui, qui est un rapide survol de, là aussi, de l'encyclique Fides et Ratio, foi et raison, de notre Saint-Père Saint Jean-Paul II. Encyclique qui a été donnée en 1998, juste après une autre encyclique extrêmement dense aussi, elle aussi, hein, qui s'appelle Veritatis Splendor, la splendeur de la vérité. Alors, je vous dis, on pourrait passer toute l'année, hein, là-dessus. Il y a 105, 108 au total, avec 108 numéros, hein, et chaque numéro, chaque paragraphe, je voudrais bien entre une demi-heure et deux heures de commentaires. Voilà, donc on ne va pas faire tout ça quand même. Mais voilà, c'est une encyclique qui est très dense, hein, elle ne se lit pas très facilement, d'ailleurs, je vous préviens, non pas pour vous décourager, mais pour que vous ne soyez pas découragé si vous entrepreniez de la lire. Hein, vous dire, oh là 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 là. Alors justement, je voulais l'introduction, hein, où il nous est dit ceci, c'est très beau, je crois que c'est de Saint Jean-Paul II qui était poète, vous savez, c'est bien. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Les deux ailes. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et au terme de le connaître lui-même, afin que, le connaissant et l'aimant, intelligence et volonté, le connaissant et l'aimant, il puisse atteindre la vérité sur lui-même. Jean-Paul II vous dit ce que je vous disais. Hein.
Ça tombe bien.
Il se fait connaître, il nous permet de nous connaître. À la suite, d'ailleurs, c'est intéressant, une référence au livre de l'Exode, à un psaume, à plusieurs psaumes, à l'Évangile de Saint Jean et à l'Épître de Saint Jean. C'est pas tiré de la calotte du pape. Voilà. Et ensuite, l'introduction, toujours dans l'introduction, hein, c'est un commentaire de cette phrase de Socrate. Connais-toi toi-même. Et ce commentaire nous rappelle donc qu'il y a en l'homme un désir naturel de connaître la vérité, aussi un désir de connaître Dieu, d'où vient ce que je suis, et un désir de se connaître soi-même. Ce sont des questions de fond qui caractérisent là aussi l'humanité et qui, là encore, nous différencient des animaux. Où allons-nous ? Pourquoi ? Qui suis-je ? Qui touche ce qu'est notre conscience, hein, là encore, ce que je disais tout à l'heure. Et la recherche du pourquoi des choses, qui prend des chemins très divers selon l'histoire et selon les cultures, est un point qui caractérise tous les systèmes, toutes les cultures humaines de l'histoire que nous pouvons connaître. Et Saint Jean-Paul II nous dit que donc l'Église s'inscrit dans cette démarche qui, à notre époque, dit-il, est contrariée de diverses manières, en particulier par une abondance, une surabondance excessive, ou en tout cas difficile à gérer, des différents savoirs. Nous sommes, on dit, trop d'impôts, plus d'impôts, trop d'informations, plus d'informations, etc. etc. Et c'est vrai, hein, dans une certaine mesure, tout ce qui nous est demander de connaître peut finalement nous faire perdre le fil de ce qui est important à connaître, hein, de cet ordre que la sagesse peut et doit mettre dans nos vies. C'est aussi contrarié alors, par une sorte de fausse modestie, qui est en fait un orgueil déguisé, comme toute fausse modestie, de l'être humain, ou qui est une paresse qui se déguise elle aussi, hein, et qui s'appelle l'agnosticisme. Hein. Bon, du nom, ça me dépasse. Hein, puis les religions sont cause de conflits, donc, restons-en au savoir utilitaire, à ce qui me fait du bien. Voilà. L'agnosticisme, le relativisme, hein, tout le monde a dit n'importe quoi, le contraire de tout, donc, moi j'en reste hein, mais à ma foi du charbonnier, il y a des connaissances suffisent pour ma petite vie, qui nous font passer à côté de ce qu'est notre humanité. D'où le thème de l'encyclique, nous dit Jean-Paul II dans cette introduction, qui est rien de moins et rien de plus que la vérité, une fois encore, donc on a vu qu'elle était splendide l'encyclique précédente, et le fondement de la vérité en ce qui est de notre foi. Alors le chapitre 1 nous traite de la révélation de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu a été révélée. Au point de départ de toute réflexion que l'Église entreprend, nous dit le Saint-Père, il y a la conscience d'être dépositaire d'un message, il y a son origine en Dieu même. Et le Saint-Père va reprendre au fil de ce chapitre cette affirmation du Concile Vatican I, que j'ai déjà mentionné, c'est au numéro 9 de l'encyclique présente. La constitution Dei Verbum, je me trompe, numéro. Le Concile Vatican I enseigne que la vérité atteinte par la voie de la réflexion philosophique et la vérité de la révélation ne se confondent pas, et que l'une ne rend pas l'autre superflue. Alors je vous lis quand même la citation de cette constitution Dei Filius du Concile Vatican I, pour au moins l'avoir entendu une fois dans sa vie. Il existe deux ordres de connaissances, distincts non seulement par leur principe, mais aussi par leur objet. Par leur principe, puisque dans l'un, c'est par la raison naturelle, et dans l'autre, par la foi divine que nous connaissons. Par leur objet, parce que, outre les vérités que la raison naturelle peut atteindre, nous sommes proposés à croire les mystères cachés en Dieu qui ne peuvent être connus s'ils ne sont divinement révélés. C'est très très important d'avoir bien en tête ces deux ordres concourants de connaissance. Mais ensuite, dans ce chapitre toujours, Jean-Paul II nous rappelle que la révélation justement est une histoire. Elle s'inscrit dans le temps et l'histoire, aussi bien dans nos histoires personnelles que dans l'histoire de l'humanité. Avec l'histoire sainte que la Bible nous raconte, le choix de nos premiers parents, le choix de quelques hommes, Noé, le choix d'Abraham, le choix d'un peuple, la révélation progressive que Dieu fait de lui-même à ce peuple, jusqu'à se révéler en devenant membre humain de ce peuple en Jésus. Le Verbe fait chair. C'est pas une invention moderne, cette histoire de la révélation. L'Épître aux Hébreux le dit, de bien des manières, à bien des époques, notre Seigneur s'est fait connaître à travers les prophètes. Mais en ces temps qui sont les derniers, il s'est révélé par le Fils. C'est un mystère, nous dit le pape, il a déjà souligné, et il faut donc l'acte de foi, je vous dis, pour adhérer à ce mystère. Et je vous dis la fin du paragraphe 14. Oui, c'est ça. Tiens, je me trompais de citation, c'est pour ça que je suis là. La fin du premier alinéa du paragraphe 14. Cette connaissance de foi renvoie constamment au mystère de Dieu que l'esprit ne peut explorer à fond, mais seulement recevoir et accueillir dans la foi. À l'intérieur de ces deux moments, la connaissance de foi et le moment philosophique, la raison dispose d'un espace particulier qui lui permet de chercher et de comprendre sans être limité par rien d'autre que par sa finitude face au mystère infini de Dieu. Je disais, c'est dans notre intelligence, à nous, à moi, à vous, que Dieu se révèle et que je peux monter vers lui. D'où les deux chapitres suivants. Le premier, le chapitre 2, s'intitule « Je crois pour comprendre, je crois pour être intelligent ». Credo cum intelligam. Et au cours de ce chapitre, le Saint-Père nous parle de cette réflexion que fait souvent la Bible, hein, en comparant celui qui refuse de croire à l'insensé. Il y a un psaume qui dit cela. L'insensé habite dans son cœur, pas de Dieu. Et comme encore le livre de la sagesse le dit, et bien d'autres livres de la Bible, hein, croire nous rend intelligents. Et refuser de croire ampute notre intelligence de ce pourquoi elle est donnée et créée. Il y a donc un risque, nous dit Saint-Père, dans une pensée philosophique systématiquement repliée sur elle-même et qui refuserait de s'ouvrir a priori, qui refuserait a priori de s'ouvrir à la possibilité d'une révélation et de l'accueil de cette révélation. Donc, philosophie agnostique et encore pire, athée, est, je répète, une amputation a priori de l'intelligence humaine. Cependant, les choses, hélas, ne sont pas si simples, car on se rappelle de l'expérience que saint Paul a faite à l'Aréopage à Athènes, quand il commence à parler de la résurrection, les grands savants de l'époque, les grands intellectuels de l'époque, disent bon, ça va, et qu'il sera une autre fois. Parce que c'est vrai aussi, et saint Paul le dit, il affirme, hein, la sagesse de la croix est folie pour les juifs, scandale pour les juifs, folie pour les païens. Et pourtant, justement, il faut aller jusque-là. Et donc, c'est vrai aussi, il faut être conscient, hein, qu'il y a comme un écueil pour la raison dans l'accueil plénier de la révélation, c'est-à-dire l'accueil du mystère de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus, fils de Dieu. C'est au numéro 23 qu'on trouve cela énoncé d'une manière très, très nette. Hein. Au début de ce numéro 23, il est dit ceci, par conséquent, le rapport du chrétien avec la philosophie demande un discernement radical. Dans le Nouveau Testament, surtout dans les lettres de saint Paul, un point ressort avec une grande clarté, l'opposition entre la sagesse de ce monde, entre guillemets, et la sagesse de Dieu révélée en Jésus-Christ. La profondeur de la sagesse révélée rompt le cercle de nos schémas habituels de réflexion, qui ne sont pas du tout en mesure d'exprimer de façon appropriée. C'est la mésaventure qui est arrivée à Saint-Pierre, qui n'était pas encore saint, hein, au moment où, à Césarée et Philippe, quand Saint-Pierre atteste grâce à l'Esprit Saint, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Je lui dis, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Encore un très bel exemple hein, de ce conflit. Et puis après, Jésus révèle qu'il va être mis à mort, crucifié, ressuscité. Et là, pour Saint-Pierre, il bute. Il dit, non, non, qu'il en tienne, cela ne t'arrivera pas. Passe derrière moi, Satan. Les pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Voilà. Sévère, mais juste. Hein? Et c'est encore, vous voyez, c'est ça vous manifeste très clairement cette crucifixion, en quelque sorte, hein, que votre intelligence peut faire. Alors je termine la lecture de ce paragraphe 23, qui est très fondamental. Voilà. Le rapport entre la foi et la philosophie, hein, il est encore question de rapport, vous voyez. Le rapport entre la foi et la philosophie trouve dans la prédication du Christ crucifié et ressuscité l'écueil contre lequel il peut faire naufrage, mais au-delà duquel il peut se jeter dans l'océan infini de la vérité. Ici se manifeste avec évidence la frontière entre la raison et la foi, mais on voit bien aussi l'espace dans lequel les deux peuvent se rencontrer. Je ne sais pas si vous êtes un jour sorti ou rentré dans le golfe du Morbihan contre la marée et vous passez le Ratzin, par exemple. Il y a des écueils, là, on peut se mettre dedans, dessus. Et pouf, on passe.
Oui, c'est une belle image,
ça. Là, c'est pas moi qui l'ai dit. L'écueil, c'est moi qui rajoute.
Oui, mais c'est l'image.
La question géographique. Voilà, hein, je crois en vue d'être intelligent. Chapitre 3. Je veux être intelligent, là, je brode un peu, c'est intelligo ut credam. Hein. Je cherche à être intelligent pour croire, en vue de croire. Alors c'est encore l'évocation de Saint Paul à Athènes, hein, où il essaye, hein, et ça ne marche pas trop, mais il essaye quand même. Hein. En parlant avec les lettres, là, j'ai vu des hôtels très nombreux, vous êtes très religieux, et il y en a même un au Dieu inconnu. Et bien, ce Dieu inconnu, je viens vous l'annoncer. L'effort de saint Paul de partir de la culture des gens auxquels il s'adresse pour leur annoncer, alors là, c'est quelque chose qui va être ardu à comprendre. Et de fait, donc, nous dit le pape Jean-Paul II, il y a de fait une présence de Dieu dans le cœur des hommes, de tout homme, et cette présence se manifeste par une aspiration très très fondamentale à connaître la vérité. Et Aristote l'avait déjà énoncé, hein, 400 ans avant Jésus-Christ, près, en disant « Tous les hommes aspirent à la connaissance. » Et l'objet de cette aspiration est la vérité. Il y a donc une présence de Dieu dans le cœur de tout homme, même non encore éclairé par la foi, qui nous attire vers la vérité. Cependant, donc, il y a de nombreux obstacles au numéro 28 qui sont abordés, hein, et la vérité, la recherche de la vérité ne se présente pas toujours, et même souvent pas, avec cohérence et transparence. Et c'est pourquoi, et c'est assez intéressant de voir que le Saint-Père le marque à cet endroit-là, il est nécessaire, pour surmonter ces obstacles, de considérer que nous ne sommes pas tout seuls. La place de l'autre dans le prochain, dira-t-on, hein, en chrétien, dans notre recherche de la vérité, notre recherche intelligente de la vérité qui nous conduit à la foi, est une place indispensable. Je vous lis en particulier le dernier alinéa du numéro 33. De ce que j'ai dit, il résulte que l'homme est engagé sur la voie d'une recherche humainement sans fin. Recherche de vérité et recherche d'une personne à qui faire confiance. Et c'est le mystère du Christ, et encore, qui va nous permettre de découvrir cette personne à qui faire confiance. Alors dans le chapitre 4, nous revenons à quelque chose de plus, j'allais dire terre à terre, c'est beaucoup dire, même, parce que ça reste assez un niveau assez important, les rapports entre la foi et la raison. Et nous venons, il y a tout un aspect historique sur les rapports entre la foi et la, entre la philosophie et la théologie, une histoire longue et mouvementée, où le Saint-Père nous parle des pères de l'Église, des anciens, etc. Et on arrive à manifester la place éminente de saint Thomas d'Aquin dans cette recherche et dans ce concours qu'il a su ménager et utiliser entre la foi et la raison. En nous disant à peu près ceci, ceci que je commence à lire, la constante nouveauté de la pensée de saint Thomas d'Aquin. Sur ce long chemin, saint Thomas occupe une place toute particulière, non seulement pour le contenu de sa doctrine, mais aussi pour le dialogue qu'il sut instaurer avec la pensée arabe et la pensée juive de son temps. Voilà, place de saint Thomas, mais constatation ensuite dans l'histoire, et même très très vite, et même de manière quasi contemporaine à saint Thomas. Il ne faut pas trop s'imaginer d'ailleurs qu'à l'époque de saint Thomas, c'était, on dit, la chrétienté, enfin, la chrétienté, c'était pas mal de bagarres, de disputes. Il y avait le Saint-Empire et les États du pape qui se faisaient la guerre. Il y avait des querelles théologiques qui faisaient que les franciscains et les dominicains en venaient aux mains à la Sorbonne, etc., etc. Bref, c'était pas forcément archipélique. Mais c'est vrai que au basculement du Moyen-Âge vers la Renaissance, la foi et la raison ont divorcé en quelque sorte, hein, et se sont trouvés dans une situation non seulement d'indépendance mutuelle, mais aussi quelquefois d'opposition jusqu'à l'époque moderne et contemporaine. Et par conséquent, cette séparation a eu des conséquences dommageables, aussi bien sur la raison, hein, sur l'exercice de l'intelligence humaine au sujet de la personne même, de ses réalités, on en voit les conséquences actuelles, hein, et aussi d'ailleurs pour l'exercice de la foi à travers la théologie. Il s'est quelquefois sclérosé en devenant vassal de certaines options philosophiques qui étaient antinomiques ou qui sont antinomiques avec la foi. Et le pape conclut ce chapitre au numéro 48 en disant « On ne doit donc pas considérer comme hors de propos que je lance un appel fort et pressant pour que la foi et la philosophie retrouvent l'unité profonde qui les rend capables d'être en harmonie avec leur nature, dans le respect de leur autonomie réciproque. À l'audace bienveillante de la foi doit correspondre l'audace de la raison. » Pas d'un repli frileux sur soi-même. Et ensuite, justement, le chapitre 5 va traiter de la tâche du magistère de l'Église vis-à-vis de la philosophie. Il s'agit pour le magistère, hein, qui est justement notre maître, comme son nom l'indique dans le domaine de la foi, de guider les fidèles et les penseurs pour leur faire éviter deux écueils opposés, mais qui sont des véritables écueils, aussi bien pour la raison que pour la foi, le fidéisme qui ferait refuser toute interaction de la raison à l'égard de la foi, c'est une sorte de canonisation du charbonnier, hein, de la foi du charbonnier. Non, moi, de toute façon, ça me dépasse, donc la philosophie s'arrête là. Je crois parce que c'est absurde. Bon, et bien, voilà, ça, c'est un écueil grave. Mais l'écueil opposé est le rationalisme, ou le scientisme, qui n'accepte de croire que ce qui est scientifiquement démontré. Voilà, comme on dit souvent depuis quelques trimestres. Voilà. Et donc l'Église intervient au fil de son histoire et de l'histoire de la pensée en disant non, cette manière de penser n'est pas féconde, et même peut-être dangereuse. Il y a eu plusieurs interventions, hein, européenne dans ce domaine. Je regarde. Passage que vous avez mentionné. Voilà. Cependant, ces interventions n'expriment pas une défiance de l'Église à l'égard de la philosophie, mais au contraire un intérêt actif, tout en préservant la foi des fidèles. Avec un rappel encore au numéro 57 de l'importance de la place de saint Thomas d'Aquin. C'est le pape Léon XIII, après une longue éclipse de la pensée de saint Thomas, enfin, il y a eu des commentateurs éminents au fil, en particulier jusqu'au XVIIe siècle, mais ensuite la pensée de saint Thomas a été un peu oubliée, elle s'est sclérosée dans une scolastique excessivement rigide et pas très intelligente. Et donc c'est le pape Léon XIII à la fin du XIXe siècle qui a remis en évidence saint Thomas d'Aquin et qui a présenté à l'Église le caractère exceptionnel de sa pensée. Et voilà ce que disait le pape Léon XIII dans l'encyclique Aeterni Patris, du Père éternel, 4 août 1879, citation, au moment même, en parlant de saint Thomas, saint Thomas, au moment même où, comme il convient, il distingue parfaitement la foi de la raison, les unit toutes deux par des liens d'amitié réciproque. Il conserve à chacune ses droits propres et en sauvegarde la dignité. Donc la préoccupation de l'Église au sujet de la philosophie n'est pas une forme de mise en esclavage. Et pour préciser sa pensée, le pape, dans le chapitre 6, nous parle de l'interaction, cette fois-là, entre la théologie, la science de Dieu, la doctrina sacra de saint Thomas, et la philosophie. Et il nous indique, d'une manière qui est toujours très actuelle, la place nécessaire, donc, comme je le disais d'ailleurs en traitant dans le chapitre 6 précédent, une place nécessaire de la philosophie dans la recherche spécifique que représente la théologie. La théologie a pour source la révélation et pour objet la connaissance de Dieu. Elle ne doit pas se séparer de la foi, mais ces outils sont des outils nécessairement qui font intervenir à la fois la philosophie et la culture. Pour que la pensée théologique de l'Église catholique universelle puisse être reçue par des cultures aussi bien en Asie, en Afrique, que dans notre Occident post-chrétien. D'où les exigences et les tâches actuelles, c'est le chapitre 7 de l'encyclique, exigences et tâches actuelles de la théologie, mettre en évidence la portée philosophique de la parole de Dieu, c'est un peu ce que nous disait le Père Yvan Brière, en voyant qu'effectivement, les sages de l'Ancienne Alliance ont une pensée philosophiquement valide et intéressante. Et il est assez désolant dans cet ordre-là que la Bible ne fasse pas partie des livres recommandés aux apprentis philosophes, ou même aux philosophes patentés, sauf dans certaines cultures très rares. Et dans cet ordre-là, l'importance d'une branche quelquefois oubliée, voire méprisée, de la philosophie, qui est la métaphysique, la recherche des structures de ce qui existe. Métaphysique. La métaphysique n'est pas comme souvent à l'heure actuelle on pourrait l'imaginer, parce que c'est un sens dérivé et malheureusement péjoratif et restrictif. La métaphysique n'est pas une sorte de méditation poético-mystique sur des choses qui nous dépassent. C'est au contraire une branche extrêmement précise de la recherche philosophique qui a été, peut-on dire, découverte, hein, ou en tout cas initiée par Platon, puis perfectionnée par Aristote, et poussée justement au service de la théologie par saint Thomas d'Aquin à un niveau qui malheureusement n'a pas été beaucoup égalé depuis. Or, c'est une des clés très nécessaire à l'intelligence pour éclairer la révélation des mystères de foi et même éclairer la réalité de ce qu'est l'humanité. Par exemple, pour donner un exemple, parce que on va pas faire la physique aujourd'hui, on a plus beaucoup de temps, mais toutes les questions qui ont trait au mal ou au rapport entre l'agir humain et la vérité, ou au rapport entre la personne humaine et la vérité. Tout cela n'est éclairé, en vérité, c'est le cas de le dire, que par une réflexion sur ce qui existe, hein, ce qui est, métaphysique. Au-delà, justement, de la philosophie de la nature, qui, j'espère, vous aura intéressé, et de la philosophie du vivant, qui est très intéressante aussi, hein, il faut aller plus loin. Qu'est-ce que l'être ? Qu'est-ce que ce exister ?
Voilà. Il y aura un cours de métaphysique dans le prochain programme de l'Athénée l'année prochaine. Oh. Si vous voulez vous y inscrire, vous pourrez, vous aurez la place pour vous.
Alors, je vous encourage. Même si, là aussi, ce n'est pas non plus, c'est pas Tintin ni Lou. Et alors justement, enfin, je vous lis ceci, le dernier alinéa du paragraphe 83, le pape parle, hein. « Si j'insiste tant sur la composante métaphysique, c'est parce que je suis convaincu que c'est la voie nécessaire pour surmonter la situation de crise qui s'étend actuellement dans de larges secteurs de la philosophie et pour corriger ainsi certains comportements déviants répandus dans notre société. » J'étais personnellement présent à Ars en 1900, septembre-octobre 86, quand le pape avait parlé aux prêtres, il avait justement rappelé l'importance de la métaphysique. Voilà. Ensuite, toujours dans l'ordre de la philosophie, hein, je sais bien que les exigences imposées à la philosophie par la parole de Dieu peuvent sembler rigoureuses à beaucoup de ceux qui vivent la situation actuelle de la recherche philosophique. C'est justement pour cela que, faisant mien ce que les souverains pontifes ne cessent d'enseigner depuis plusieurs générations et que le Concile Vatican II a lui-même redit, je désire exprimer avec force la conviction que l'homme est capable de parvenir à une conception unifiée et organique du savoir. C'est là l'une des tâches dont la pensée chrétienne devra se charger au cours du prochain millénaire de l'ère chrétienne. Voilà, ce sera ma conclusion, même si ce n'est pas tout à fait la conclusion de l'encyclique, parce que ça me semble exprimer de manière très forte et claire le lien qu'il y a entre la foi et l'intelligence.
Merci beaucoup.
Voilà, peut-être qu'il y a des questions, vous n'êtes pas trop en surchauffe.
Pas une question.